RFI.
RFI, c'est la fin de ce journal, il est midi 10.
Merci beaucoup à RFI pour son journal midi 10. Aussi à Bordeaux, vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle des médias dans la situation politique actuelle et dans la montée de l'extrême droite. Comment certains médias ont-ils fait la campagne de l'extrême droite et comment contester cette influence et cette présence médiatique qu'elle a acquise? C'est les questions qu'on posera à nos deux invités. Et on commence avec quelques infos complémentaires. Et toi, Léa, salut.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Mediapart vient de révéler de nouvelles informations dans l'affaire Nicolas Sarkozy concernant le financement illégal de sa campagne avec des fonds libyens.
Selon ces informations, BFM TV s'est mis à la disposition de l'ancien chef de l'État. Le 16 octobre 2020, dans un texto envoyé par la journaliste Ruth Elkrief à Véronique Ouaché, la chargée de communication de Nicolas Sarkozy, elle écrit « Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut montrer ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets nos amitiés à Nicolas Sarkozy. » Mediapart résume l'ensemble de ces discussions, les qualifiant d'incroyable mobilisation de responsables et figures de la chaîne d'information en soutien de Nicolas Sarkozy au moment de la fausse rétractation de Ziad Takledine. Après publication de l'enquête, les journalistes de la chaîne BFM TV ont adressé un courrier à leur direction, interpellant directement Marc-Olivier Fogiel, journaliste mis en cause, pour lui demander des comptes.
En cas de canicule, le secteur du BTP passe au chômage technique.
Un décret vient d'être publié le 28 juin au journal officiel. La canicule est enfin reconnue comme motif de chômage technique dans le secteur, au même titre que la neige, le gel et les vents exceptionnels. Lorsqu'une alerte de vigilance canicule est annoncée orange ou rouge, le travail devra cesser et les salariés seront indemnisés à partir du deuxième jour, avec, selon le secrétaire général de la CFDT, Patrick Blanchard, quasiment un maintien de salaire. Une victoire pour les syndicats qui ont porté cette lutte, que la CFDT qualifie d'avancée majeure pour la santé et la vie des travailleurs du BTP, temporisant tout de même en disant qu'il s'agit seulement d'une première étape.
À l'université Bordeaux-Montaigne, maintenant des nouvelles dans l'affaire de la plainte pour viol concernant l'ancien vice-président.
Accusé par Barbara Stiegler, professeure de philosophie, l'ancien vice-président vient d'être placé en examen pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Après une première plainte classée sans suite, comme c'est le cas dans 86% des affaires, le dossier a été rouvert par la justice. L'accusé a été placé sous contrôle judiciaire par une juge d'instruction avec interdiction d'entrer en contact avec la plaignante, selon des informations Sud-Ouest. D'autres étudiantes ont également accusé ce même professeur de comportement problématique. Plusieurs affaires de violences sexistes et sexuelles ont éclaté à l'université Bordeaux-Montaigne durant cette année, dont la gestion interne de la part de la présidence a été vivement critiquée, donnant lieu à de nombreuses mobilisations et déblocages de l'université. Des mobilisations qui ont notamment permis certaines victoires concernant la gestion interne des violences sexistes et sexuelles à l'université.
Le planning familial de la Gironde mène, lui, le bras de fer avec l'Agence régionale de la santé pour conserver ses financements.
80 000 euros accordés sur les 160 000 demandés à l'ARS, c'était la douche froide en début de semaine pour le planning familial qui se voyait dans l'obligation de licencier 2 postes à temps plein sur les 7,5 nécessaires au fonctionnement de la structure. Cette coupure de budget serait due à la nouvelle stratégie de financement de l'ARS qui demande des actions de prévention, je cite, probantes, c'est-à-dire qui peuvent être mesurées, dont l'impact sont déjà validés par Santé publique France et qui bénéficient à une large partie de la population. Le planning familial dénonce une décision qui a des impacts directs et dramatiques sur nos activités, nos publics, nos méthodes et nos valeurs. Hier, des négociations ont eu lieu entre l'ARS et le planning familial de la Gironde. 34 000 euros supplémentaires ont été débloqués à titre provisoire. En contrepartie, l'association doit, je cite, « s'inscrire dans l'amélioration et l'évaluation de ses programmes d'intervention en milieu scolaire ». Le planning familial s'annonce soulagé, mais attentif au reste des négociations, car il reste de l'argent à trouver. Une mobilisation de soutien devant l'ARS est prévue demain midi au 103 bis rue de Belleville à Bordeaux.
Et puis on termine avec Stop aux méga-bassines, une nouvelle mobilisation la semaine prochaine dans le Marais Poitevin.
Des convois de l'eau partent à vélo de différentes régions de France. À Bordeaux, départ samedi d'un convoi organisé par ANV COP21 pour aller jusqu'à Mel. Et toute la semaine prochaine, du mardi au dimanche, un village de l'eau à Mel avec des débats, des formations, des ateliers et des fêtes. Et puis deux manifestations qui auront lieu vendredi 19 dans la Vienne à Saint-Sauvent contre des projets de bassines dans le département. Et samedi 20 à La Rochelle, bloquons les méga-bassines à la source, au terminal agro-industriel portuaire de La Palisse, où sont exportées notamment les céréales produites à grand renfort d'irrigation dans la région. Et plus d'informations sur bassinesnonmerci.fr. Notre camarade Rémi Filton nous enverra des cartes postales sonores depuis le convoi de l'eau et le village de l'eau. Ce sera écouté chaque jour à partir de dimanche à 8h30, 12h30 et 18h30 sur la clé des ondes.
Merci beaucoup à toi Léa. 12h15 sur la clé des ondes, c'est le plat de résistance. Alors on sort à peine de cette folle séquence politique et médiatique avec élections européennes puis législatives. Mais on voulait quand même terminer notre saison du plat de résistance en abordant cette question du rôle des médias dans tout cela. Parce que la tonalité de cette séquence, ça a été la banalisation de l'extrême droite d'un côté, la diabolisation du nouveau Front populaire de l'autre, et au milieu, une grande pauvreté dans le débat d'idées, allant même jusqu'à faire disparaître la question écologique des radars. Alors, on va revenir sur tout ça avec nos deux invités. Aujourd'hui, l'un est en studio, c'est Simon Barthélémy. Salut Simon.
Bonjour.
Tu es rédacteur en chef de Rue 89 Bordeaux, site d'info local indépendant qui vient de fêter d'ailleurs ses 10 ans en début d'année. Et tu es aussi coprésident du Club de la Presse de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. On peut d'ailleurs lire sur le site du Club de la Presse un billet que tu as écrit, l'extrême droite et les médias, une nécessaire autocritique, s'il n'est pas trop tard, entre parenthèses. Et bon, il n'est jamais trop tard, on va le faire nous aussi ce midi. Et puis par téléphone, on est avec Mathias Raymond. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en sciences économiques et co-animateur du site acrimed.org. Peut-être tu peux rappeler en trois mots ce que c'est Acrimed.
Oui, Acrimed, c'est une association qui date de 1996 et qui est constituée d'universitaires, de chercheurs, mais aussi de journalistes ou simplement de militants, et qui observe les médias, fait de la critique des médias et puis aussi fait des propositions en termes de transformation des médias via principalement un site acrimed.org, mais aussi des publications, livres ou revues. Voilà.
Super, ben on viendra peut-être aussi sur cet aspect-là de ce que vous proposez pour changer ce modèle-là. Peut-être on va commencer par revenir sur quels ont été les ressorts de cette omniprésence de l'extrême droite dans les médias ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être aussi. Alors omniprésence qui a été un sentiment, je pense, ressenti par beaucoup de personnes, mais qui a aussi été objectivé. Simon, dans le billet dont je parlais que tu as fait, tu relèves le décompte des mentions des différents candidats qui a été fait par une plateforme la plateforme TagD, qui cite donc 17 309 mentions de Jordan Bardella en mai 2024, loin devant Raphaël Glucksmann à 11 832 mentions, puis quatre autres candidats dans l'ordre, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Valérie Ayer et Marie Toussaint, entre 5 300 et 5 800, Emmanuel Aubry encore en dessous avec 4 000, et la conclusion que tu interroges, c'est que les médias publics et privés ont quasiment réussi à imposer dans l'ordre les résultats des élections. Ça compte ce truc-là de mention, ça impose en fait un paysage politique dans les médias, Simon ?
Oui, alors enfin, la conclusion sur le tiercé, c'était celle du site qui avait fait cette recension, donc le contre-attaque, que je partageais justement pas tout à fait, puisque c'était pas le tiercé exact, puisqu'on voyait par exemple que Valérie Ayer, qui arrivait très loin derrière, enfin qui avait moitié moins de mentions dans les médias que Raphaël Glucksmann à l'arrivée est juste derrière lui, ou que inversement
Manon Aubry,
la France Insoumise, était un peu mieux placée que si on s'était référé juste à un décalque. Mais ce qui est évident, c'est que on voit depuis quelques mois, quelques années, la stratégie de banalisation de l'extrême droite et du Rassemblement National, de se présenter vraiment comme un parti comme les autres, fonctionne à plein régime, avec pas mal de ressorts qu'on va développer dans cette émission, mais notamment sur les derniers mois de ce qu'on a pu voir. Il y avait par exemple une émission d'arrêt sur image là-dessus, sur rebondissant sur une émission de Télématin qui avait suivi Jordan Bardella et qui avait fourché complètement sur un jeu de mots de Libération, qui justement parlant de ce sujet de la relation de Bardella aux médias, avait titré « Comme un poison dans l'eau ». Et Télématin s'était planté, avait dit « Repris comme un poisson dans l'eau », sans relever le jeu de mots. Et Arrêt sur Image avait montré derrière plusieurs reportages du service public, notamment suivant la campagne de la tête de liste du RN aux européennes, où il était présenté comme une rockstar, où force selfie, et voilà, une image un peu complètement dépolitisée, où il n'était pas du tout question de programme, pas question de ce que compte faire exactement l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Mmh. Et voilà, qui est validé, alors jusqu'à quel point, par les rédactions en chef des différents médias. Est-ce que c'est voilà, la volonté de la course à l'audimat? Est-ce qu'il y a derrière des ressorts plus politiques? Alors les ressorts politiques qui sont évidents dans le groupe Bolloré, où il y a vraiment une machine de guerre idéologique qui est en marche et qui infuse sur les autres, puisque comme ils obtiennent des résultats... Mais des très bonnes audiences, il y a cette idée de il faut faire comme eux, il faut aussi donner plus de place à des éditorialistes ou carrément à des figures politiques d'extrême droite. Donc il y a une course à l'échalote comme ça qui est assez dévastatrice, puisqu'on sait aujourd'hui que la télévision, faut pas se focaliser sur la télévision, mais ça reste la première source d'information d'une grande partie de la population, et en particulier chez les personnes âgées qui sont celles qui votent le plus.
On reviendra peut-être sur les raisons de voilà, qu'est-ce qui pousse les médias, les rédactions à aller là-dedans, mais pour revenir à comment on objective ce sentiment d'omniprésence de l'extrême droite qu'on a pu avoir, de vagues d'extrême droite dans les médias de ces derniers mois. Mathias Raymond, qu'est-ce que vous, à Acrimène, vous avez pu observer de par quoi ça passe et comment ça se met en place, cette présence de l'extrême droite dans les médias?
Alors, ça fait quand même pas mal d'années qu'on observe le rapport que les médias entretiennent avec l'extrême droite, et il y a plusieurs ressorts qui contribuent, si on veut dire ça comme ça, à la dédiabolisation de l'extrême droite par les médias. Parmi ces ressorts, il y a évidemment ce qui nous semble l'un des plus importants, c'est la dépolitisation de la politique par les médias. Alors, c'est une coproduction, hein. C'est pas que les médias qui contribuent à dépolitiser la politique. Les acteurs politiques, les personnages politiques, les partis politiques contribuent eux aussi à cette forme de dépolitisation, cette pipolisation de la politique, cette spectacularisation de la politique.
Ça veut dire on parle moins des sujets, moins des idées, moins du fond, et plus de la tête des gens, de leur personnalité.
Voilà, disons que la forme prime sur le fond, le commentaire sur l'analyse, etc. Et on le voit d'ailleurs, hein, les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes d'information en continu, ne sont pas des chaînes d'information en continu. En réalité, c'est des chaînes de discussion en continu où on a vraiment privilégié le commentaire, hein, plus que l'analyse, la forme plus que le fond. Donc il y a ce premier ingrédient, puis il y a d'autres ingrédients aussi sur la mise en avant de sujets, de thèmes portés par l'extrême droite. Les thèmes sur la sécurité, sur l'immigration notamment, sont des thèmes qui sont mis en avant par les médias, mais qui sont aussi les thématiques privilégiées de l'extrême droite. Alors, pourquoi ces thèmes-là sont banalisés d'une certaine façon dans les médias? Ça, c'est lié à une forme de facilité, c'est des sujets assez simples à aborder de manière superficielle, et puis c'est spectaculaire aussi, de la violence, de la filmer, de la mettre en avant, etc. Donc, l'insécurité, et aussi le lien qui est fait avec l'immigration, voire même avec l'islam par l'extrême droite, sont finalement mis en lumière par les médias. Et puis aussi, pour compléter ce qui était dit tout à l'heure, il y a en effet le nombre d'invitations, le nombre de mentions de Jordan Bardella, notamment dans la dernière campagne aux européennes, qui était très, très présent. Mais au-delà de ça, ce qu'on a constaté, nous, à Acrimède, c'est que même absent, l'extrême droite est présente. Même quand elle est absente, l'extrême droite est présente. Et on se rappelle très bien de la candidature d'Éric Zemmour. Avant même qu'il soit candidat, en septembre 2021, Il était déjà omniprésent dans les médias. Les thèmes qu'il portait étaient omniprésents dans les médias. Et quand il n'était pas invité dans les émissions, on interrogeait les autres personnalités politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur ce que pensait Éric Zemmour, sur le point de vue d'Éric Zemmour, alors qu'il avait zéro député à l'Assemblée nationale, qu'il représentait en termes politiques rien, qu'il n'était présent que parce que les médias avaient décidé qu'il soit présent. On n'interrogeait pas, par exemple, Darmanin ou Michel Barnier sur les points de vue portés par Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Non, on les interrogeait sur ce que disait Zemmour dans une autre émission ou dans une autre interview qu'il avait pu faire au préalable.
Peut-être on va se demander pourquoi ça marche comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette attraction et que tout tourne autour de ces personnalités-là? Simon, tu voulais réagir de Rue 80 Bordeaux?
Oui, pour compléter, c'est vrai qu'il y a eu un article de Libération là, ces derniers jours sur, qui s'est penché sur le temps d'antenne donné par les chaînes aux différentes forces. Est-ce qu'elles avaient respecté les équilibres puisqu'elles sont tenues théoriquement en période de campagne électorale à un temps équivalent. Ils se sont intéressés à ce qu'avaient fait les chaînes de Bolloré, donc CNews, la chaîne d'info en continu, C8. Et la grande nouveauté à laquelle on assiste depuis quelques temps, c'est cette présence d'éditorialistes ou qui ont l'étiquette entre guillemets journaliste, qui fait que si ces temps de parole donnés donc à des élus, enfin des élus ou des candidats des différentes forces étaient relativement respecté. Derrière, donc, il y avait des reprises de commentaires, des paroles par j'ose pas les qualifier de journalistes, mais parce que bon, c'est des chroniqueurs de Valeurs Actuelles ou de médias comme cela, qui prennent du temps de parole en fait qui prennent pas du temps de parole justement, c'est
qui disent la même chose, qui devraient être comptés sur le même ligne de temps de parole mais qui le sont pas.
Voilà, exactement, et c'est un reproche qui a été fait par l'ARCOM, donc l'autorité de régulation à CNews, de veiller justement à davantage de pluralisme et pas avec des amendes à la clé sur des propos racistes ou climato-sceptiques qui n'étaient pas contrebalancés ensuite en plateau sur. Voilà, donc c'est y a cette question-là du pluralisme théorique et puis celle de cette idéologie qui dépasse très largement le cadre juste de la parole publique.
Mathias Raymond, il y a une vidéo que vous avez publiée à Acrimed avec Blast qui est titrée Les médias complices et coupables. Comment elle s'est installée? Comment elle fonctionne cette complicité? Est-ce que c'est une complicité idéologique? Est-ce que c'est une complicité qui est liée à des intérêts économiques, de rentabilité, de course à l'audience, de course à l'échelle, comme disait Simon tout à l'heure? Comment tu analyses ça? Quand vous analysez ça, comment ça fonctionne, Mathias Raymond?
Alors, c'est une complicité tacite. Enfin, c'est évidemment, si on met de côté les médias qui appartiennent à Vincent Bolloré, hein, qui sont des médias de propagande au service de l'extrême droite, et en particulier CNews, ou même plus récemment les chaînes, les journaux qu'il a pu racheter, on ne peut pas dire que l'ensemble des médias soient des médias complices objectivement des thèses d'extrême droite. Surtout quand l'extrême droite arrive au second tour et qu'on se rend compte que ces médias-là vont plutôt, pour certains, s'incliner vers un front républicain ou soutenir de manière discrète parfois un front républicain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que je pense vraiment que ces médias-là, par facilité, par manque de moyens, très souvent, ont tendance à relayer des informations. À faire ce qu'on appelle aussi, par exemple, du journalisme de préfecture, c'est-à-dire relayer les informations de la préfecture dès qu'il s'agit de violence, d'insécurité, etc. Et donc, de jouer le jeu de l'extrême droite, de jouer, de façonner, si vous voulez, les fondations de ces mouvements d'extrême droite en accompagnant les thèses qu'ils peuvent défendre et en mettant, et c'est ça le vrai pouvoir des médias, hein, en mettant à l'agenda ces sujets-là. On l'a vu récemment avec la campagne des européennes. Dès qu'on essaye de sortir de ces sujets, il y a une forme, et je pense qu'on va bientôt en parler, de diabolisation de ceux qui veulent aborder d'autres sujets, qui veulent décaler l'ordre de l'agenda, qui veulent transformer cet ordre d'agenda en disant mais non, mais le sujet principal, c'est pas forcément la sécurité ou l'immigration, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est les inégalités, etc. Là, il y a aussi une opposition qui apparaît dans les médias dès lors que l'agenda est déstabilisé.
Et effectivement, on a vu en parallèle une décrédibilisation de la gauche. Vous titriez chez Acrimed les médias en guerre contre le nouveau Front populaire dans des proportions qui semblaient assez délirantes parfois quand on ouvrait le journal et qu'on voyait ce qui pouvait être dit. Simon Barthélémy, une réaction ?
Oui, juste pour compléter sur le point précédent, indépendamment du nouveau Front populaire et de son traitement, sur les facteurs là, qui sont en jeu. Donc, je parlais de course à l'audience, on l'a vu par exemple avec BFM TV, qui est désormais, qui était la première chaîne d'info et qui commence à être régulièrement distancée par Médiamétrie, dans les chiffres de Médiamétrie par CNews, et qui, après les européennes, a demandé à sa rédaction d'inviter davantage de chroniqueurs et d'éditorialistes de l'extrême droite piqués à CNews avec l'argument qu'il fallait parler à tout le monde et que voilà, avec 35% du pays extrême droite, il fallait aller dans le sens du poil et flatter cet électorat-là. Donc il y a cette pseudo-volonté d'équilibre des paroles. Et puis, ça c'est pour ce qui concerne BFM ou peut-être d'autres médias qui pourraient être tentés par ça. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forme de tétanisation d'autres médias. Je pense notamment à ce qu'on a pu lire sur ce qui se passe en interne à France Inter ou d'autres médias du service public qui est attaqué justement par CNews ou d'autres médias d'extrême droite depuis des années où ils sont présents comme un média des médias gauchistes qui donnent qui sont vraiment des gros vilains et la peur donc de la direction de ces stations de service public d'apparaître comme des médias de combat, c'est le terme qui a été prêté aux responsables de la rédaction de France Inter sur le fait que sur le traitement de l'extrême droite aujourd'hui, comment faire, c'était pendant la campagne des législatives, comment faire pour en parler sans avoir l'air de trop d'être trop critique. Donc, heureusement, ce qu'on voit, c'est que ça soulève beaucoup de débats en interne et que les journalistes, qu'ils soient dans les sociétés de journalistes indépendants ou des syndicats commencent à se révolter contre ça.
Effectivement, Mathias Raymond, vous avez aussi fait le décompte sur Acrimed des rédactions qui se sont mobilisées, des sociétés de journalistes souvent, ou des syndicats qui ont pris des positions, critiqué la manière dont leur rédaction en chef prenait des positions dans des éditos, notamment pendant la campagne des législatives, notamment. À quelles conditions est-ce que ça marche ? Enfin, quel rôle ça a ? Est-ce que ça ne permet que de dire les rédactions sont pas monolithiques, il y a des gens qui essayent de s'obliger de casser un peu ces fonctionnements-là ? Est-ce que ça permet d'avoir des résultats ou est-ce qu'il y a une telle verticalité dans beaucoup de ces rédactions que les petites batailles internes des journalistes ne payent pas vraiment ? Mathias Raymond ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Les batailles internes, comme vous dites, elles ne payent pas souvent. Alors, elles peuvent payer de temps en temps, mais c'est une expression qu'utilisait Franz-Olivier Gisbert il y a bien longtemps, quand il était directeur du journal Figaro Magazine. Il disait « Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du capital ». Et il disait « C'est normal qu'un patron, un propriétaire de médias, décide ce qui est publié dans ce média-là ». Il le disait et il assumait, en tant que directeur du journal, de la rédaction du journal, il assumait que le propriétaire du Figaro Magazine trace d'une certaine façon une certaine ligne éditoriale. Alors, évidemment, les propriétaires, les milliardaires qui possèdent les médias ne tracent pas la ligne éditoriale, mais sélectionnent ceux qui vont la tracer. Les directeurs, les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, qui eux-mêmes vont avoir ce pouvoir de sélectionner des journalistes, de créer cet agenda dont je parlais tout à l'heure. Puisque, encore une fois, le vrai pouvoir des médias, c'est pas forcément de dire ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser, ce de quoi il faut parler. Alors, concernant là l'affaire de l'extrême droite, on est dans une situation un petit peu particulière où des journalistes essayent, à l'intérieur des rédactions, de dénoncer une forme de banalisation de l'extrême droite, mais il n'empêche que si on met de côté cet épiphénomène actuel, les journalistes qui travaillent dans les médias sont mais globalement soumis au choix des directions. Et ça, c'est un peu regrettable quand on voit ce qui est fait sur sans pas de CNews, hein, sur BFMTV ou dans telle ou telle radio. On peut dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui participent à ces médias, qui ne sont pas forcément d'accord avec les bandeaux qui sont mis en bas de l'écran, qui ne sont pas forcément d'accord avec le choix des thèmes, etc. Mais qui s'en accommodent. Qui s'en accommodent parce que, ben, il faut bien vivre d'une certaine façon. Et c'est plus cette forme d'auto-censure permanente qui est problématique que ce qui s'est passé là ces 15 derniers jours, qui, à mon avis, n'est pas révélateur en réalité du vrai rapport de force qui existe entre les pouvoirs des médias et des directions des médias et les journalistes qui y travaillent.
Ça veut dire quoi? Alors, on t'entend un peu moins bien, Mathias. Je ne sais pas si tu t'es déplacé, mais la connexion est de moins bonne qualité d'un coup. Est-ce que ça veut dire que si on prend du recul un petit peu sur ce qui s'est passé là, c'est quoi? Ce qu'on assiste, c'est un moment un peu exceptionnel et qui pourrait rentrer dans l'ordre rapidement. Enfin, comment, si on prend du recul, voilà, un peu là sur ces dernières semaines, qu'est-ce qui relève d'une habitude, on va dire, de fonctionnement dans les médias et d'une attirance peut-être générale, habituelle, ouais, pour ces questions-là? Et qu'est-ce qui est plus nouveau, selon toi?
Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des journalistes qui se sont mobilisés pour se désolidariser parfois de la direction du journal, notamment sur la question de l'extrême droite. Mais ce qui est pour moi un épiphénomène, c'est que ça fait des mois, des années parfois, que sur de nombreux sujets, ils auraient pu se désolidariser de leurs journaux, de leur direction, pardon, dans la mesure où leur direction a bien propagé des fake news. Par exemple, depuis le 7 octobre, de nombreux médias relaient des informations, des assènes certains points de vue en disant que voilà, la France insoumise est un parti antisémite, c'est le premier parti antisémite, et c'est des choses qui sont apparues, qui ont été relayées de nombreuses reprises dans les médias, sans que les journalistes de ces médias-là se mettent en grève, appellent à fermer les ondes de quelques instants, etc. Donc là, c'est parce qu'il y a l'extrême droite qui était au bord du pouvoir qu'il y a eu cette mobilisation. Mais elle n'a pas été, elle aurait pu avoir lieu bien avant, et je ne suis pas sûr qu'elle ait lieu plus tard. Voilà.
Simon Barthélémy.
Oui, il y a un contexte qu'il faut rappeler aussi, enfin, pour ce qui concerne en tout cas l'audiovisuel public, c'est qu'avant, au moment de la campagne des européennes, il y a eu un mouvement de grève contre le projet de fusion de France Télévisions, de Radio France et d'autres structures relevant de l'audiovisuel public.
France Média Monde avec TV5 Monde, voilà, et RFI.
Voilà, suivi au moment de la dissolution et des sondages qui donnaient le Rassemblement National vainqueur, d'une peur panique liée au projet de privatisation de l'audiovisuel que défend le Rassemblement National. Donc, à quel point ça a joué ou pas dans le traitement, dans l'autocensure, dans la crainte de se positionner ou pas. Il y a quand même eu en direct des journalistes, je me rappelle plus si de France Bleu ou de France 3 dans l'Isère, qui avaient reproché à des candidats du RN de venir cracher dans la soupe alors qu'ils étaient bien contents que le service public leur donne aussi la parole. Mais ce qu'on voit quand même qui est encourageant, enfin en tout cas à voir ce que ça va donner, c'est que il y a une forme de libération de la parole sur ce qui s'est passé. Donc il y a un article intéressant de Mediapart là-dessus il y a quelques jours sur notamment des journalistes ou des rubricards de France Info qui protestaient contre les angles qu'on leur demandait de faire sur certains sujets, où eux disaient donc est-ce qu'il faudrait arriver à mettre en avant la vacuité du programme du RN sur l'environnement par exemple, et où on leur disait non, ce serait plus intéressant d'aller voir des personnes issues de l'immigration qui ont voté Rassemblement National et qui disent qu'ils en ont saisi leurs instances représentatives. Et il y a des groupes informels qui se constituent pour relayer et alerter sur les cas déontologiquement un peu problématiques internes dans de nombreuses rédactions, et pas que publiques, hein, également du privé, de médias, de toute forme. Mmh.
Peut-être on va venir à la deuxième question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout ça pour essayer de rééquilibrer ou d'inverser cette tendance. Alors il y a cette question des batailles internes dans les médias dont on vient de parler. Il y a aussi ce que nous, par exemple, tous les trois ici présents, représentants de médias dits alternatifs ou libres, indépendants, on peut faire de notre côté aussi avec nos petits moyens. Il y a enquêter sur ce que fait l'extrême droite, il y a dénoncer ce que font les médias, il y a parler d'autres choses. Quels sont peut-être les outils que vous choisissez, vous, sur ce sujet-là? Simon Barthélémy, à Rue 82, vous avez tout un angle d'enquête sur l'extrême droite, c'est ça?
Oui, qu'on a pas mal, évidemment, comme beaucoup de médias développés ces derniers mois, aussi un peu dans l'urgence suite à la dissolution, avec pas mal de papiers qu'on a accélérés, qu'on souhaitait produire, et je pense qui nous distingue un peu localement, en tout cas de pas mal de confrères. Par exemple, on a fait un gros papier sur qu'est-ce qui se passerait localement si l'extrême droite arrivait au pouvoir, quelle serait la position des collectivités locales, quelle coupe serait effectuée dans tel ou tel budget, comment ces collectivités pourraient y pallier, quelles associations de défense des minorités, de l'environnement, etc. seraient directement attaquées, pourraient même être supprimées du fait de la loi séparatisme qui permet de plus facilement d'interdire telle ou telle organisation. On a fait ça, on a fait aussi pas mal de reportages justement pour aller comprendre, discuter avec les gens des ressorts. C'est là où on a notamment vu dans une série de reportages sur les communes où Bardella avait fait des gros scores aux OPN alors que elles ont aucun problème de sécurité, aucun problème de chômage, pas de présence de communautés de population étrangère qui pourraient créer des situations conflictuelles, etc. Et où on a vu justement un peu pu mesurer l'importance de l'information par la télé de gens qui vivent un peu dans des bulles. Voilà, c'est un truc auquel on est tous confrontés. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'enquêter donc sur ces représentants de l'extrême droite. On avait fait pour les européennes un portrait de Julie Rechagneux, qui est une nouvelle eurodéputée, en essayant de voir localement comment elle travaille en tant que conseillère municipale à Lormont, comment elle travaille en tant que conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, ce qui était une demi-surprise, mais bon, qui démasque un peu les propos de l'extrême droite du Rassemblement National se représentant comme un parti des classes populaires ou défendant les classes populaires, alors que au niveau local ils votent systématiquement contre tous les crédits qui peuvent aller au titre de la politique de la ville, au prétexte que les quartiers populaires, il y a une population importante d'origine étrangère, quoi. Et la difficulté qu'on a, c'est que souvent ces représentants de l'extrême droite, pour beaucoup, ne veulent plus nous parler, parce que justement, on est étiqueté, selon eux, comme un média d'extrême-gauche. Donc ça oblige à un peu d'imagination pour trouver des sources qui peuvent nous parler de ces personnes, et on apprend, ça permet de révéler quand même des choses, quoi. Notamment, par exemple, que Julie Rechagneux, qui est élue municipale à Lormont, habite à Bordeaux, ne vote pas à Lormont. On trouve des petites choses comme ça, et puis des choses un peu plus inquiétantes, entre guillemets, sur le lien qui existe toujours entre la droite violente, l'extrême droite radicale, et malgré tous les discours de la ripollinisation supposée du Rassemblement National, le fait que dans son service d'ordre au niveau local, il y a par exemple des nostalgiques, des SS, qui font pour beaucoup partie du clan Toutatis, un clan de bikers, avec pas mal de néo-nazis dedans.
Et ça rejoint un peu la position de Mediapart qui donne cette position-là. Nous enquêtons sur leur financement et leur éthique, donc à l'extrême droite, mais nous ne leur ouvrons pas nos colonnes pour des interviews qui banalisent leurs paroles. Mathias Raymond, tout à l'heure, tu insistais sur la question de l'agenda, ce pouvoir d'agenda qu'ont les médias de mettre à la une certaines questions et de faire combat à parler de certaines questions. Est-ce que ça veut dire que... ça fait poser la question de est-ce que il faudrait pas parler de complètement autre chose pour faire contrepoint et amener d'autres sujets dans l'espace public plutôt que de parler de l'extrême droite, soit pour en dire du bien, soit pour enquêter sur ce qu'elle fait. Comment on pesait le pour et le contre là-dessus, Mathias Raymond?
Moi, je pense que le pouvoir, il consiste à donner plus de marge de manœuvre aux journalistes et aux rédactions pour mettre en avant des thèmes, des sujets qui ne sont pas forcément ceux qui existent en ce moment, ceux qui priment aujourd'hui dans l'agenda. Donc, c'est à mon sens les rédactions qui doivent se mobiliser. Et on avait fait à plusieurs reprises, on a fait des articles là-dessus en disant que les journalistes ont une responsabilité, ils ont une responsabilité dans le choix des sujets, dans le choix de la hiérarchisation de l'information. Et tout à l'heure, on parlait de la mobilisation des rédactions. Mais moi, je voulais faire référence à 2021, quand je vous ai parlé de Zemmour. On avait fait, nous aussi, un article là-dessus en disant, mais que font les rédactions, justement? Que font les rédactions face à l'extrême droite et face à cette banalisation? En fait, ils ne faisaient rien. À part les pigistes, justement, qui avaient signé une tribune en demandant à ce que la haine ne soit pas le thème porteur de la campagne présidentielle de 2022. Et toutes les rédactions suivaient les chefferies éditoriales, les chefferies médiatiques, et ne se désolidarisaient pas, finalement, des patrons, des directeurs de rédaction dans l'agenda imposé par Zemmour, notamment, et par, finalement, les autres médias. Il n'y avait pas de prise de conscience des journalistes. Et quand je dis des journalistes, je ne parle pas des journalistes vedettes, des éditorialistes, etc. Je parle des journalistes lambda. Et c'est à eux de se mobiliser. Et c'est pour ça que nous, à Acrimed, on est en train de... dans les propositions que l'on fait, on essaye de faire quelques propositions concrètes, notamment sur le statut juridique des rédactions, pour donner plus de pouvoir aux journalistes, pour donner plus de pouvoir aux rédactions, notamment dans le choix, par exemple, du directeur du journal, tout simplement, enfin du média, ou dans le choix des thèmes abordés. Et c'est là, à mon avis, la vraie question. Et est-ce qu'on veut que les journalistes aient plus de pouvoir? Et si oui, comment leur donner ce pouvoir d'un point de vue juridique? Et l'affaire suivante, c'est qui va permettre à ce que les journalistes aient plus de pouvoir? Eh bien, ça sera le législateur. Donc, on le dit souvent, si on veut transformer les médias, il faut transformer la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un modèle de société différent qui permette d'avoir des médias différents, sans parler pour l'instant de les transformer radicalement, mais au moins déjà d'inverser l'ordre des choses et de donner plus de pouvoir à ceux qui font l'information.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut espérer qu'on puisse transformer la société avec les médias qu'on a actuellement. Simon Barthélémy, tu voulais réagir?
Oui, sur deux points. D'abord, sur l'indépendance des rédactions, en effet, c'est un sujet très important, qui c'est d'ailleurs une des propositions des États généraux de la presse indépendante, à laquelle...
Qui ont eu lieu en novembre, décembre dernier.
À laquelle était partie prenante La Clé des Ondes et rue 89 Bordeaux. C'est un point qui permet, par exemple, aujourd'hui, à un journal comme Le Monde, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler contre le quotidien, d'être relativement vraiment préservée de l'influence de ses actionnaires. Alors, je ne sais pas ce qui se passerait s'il y avait une vraie reprise, une volonté de reprise en main de la rédaction par un autre propriétaire. Mais ouais, ça c'est un point déterminant. Et puis l'autre point, c'est que pour qu'une une presse indépendante vive et se développe, il faut des lecteurs. Il faut des lecteurs qui soient prêts à y contribuer, que ce soit directement en s'abonnant à plein de médias indépendants quand c'est des formes, quand ils fonctionnent par abonnement, ce qui est le cas de Rue 89 Bordeaux. Nous, on a une petite rédaction de trois journalistes. L'année dernière, on a eu quelques difficultés économiques parce qu'on a perdu des abonnés, on a perdu quelques annonceurs. Si on n'a pas plus de gens qui sont prêts à mettre un peu de sous au porte-monnaie, ce qui n'est pas grand-chose, 5 euros par mois, on va être en difficulté ou à donner, comme il y a des street press ou reporters qui fonctionnent comme ça, qui font un peu tourner le chapeau en disant si vous aimez ce qu'on fait, mettez un peu de sous. Donc il y a ça, ou effectivement, si le législateur doit intervenir pour apporter un soutien un peu plus important, là aussi qui soit financier dans les aides à la presse, dont on sait qu'aujourd'hui elle profite quand même essentiellement déjà aux plus gros titres, à l'audiovisuel public ou indépendant. Puis éventuellement à l'éducation, en cultivant l'éducation aux médias, parce que si les gens aujourd'hui se détournent de la presse, c'est aussi qu'ils ont une offre gratuite sur internet qui n'est pas toujours de très bonne qualité, qui est un champ libre quand même à la désinformation. Donc oui, il y a pas mal de chantiers.
Tout ce qu'on évoque là, c'est des chantiers de fond, j'ai envie de dire, structurels, qui permettraient véritablement de changer un peu ce rapport-là des médias. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire plus dans de l'immédiateté ? Enfin, là, on voit que, on a vu les résultats des dernières élections. On se dit, dans 3 ans, si ça continue comme ça, ça sera encore pire. Qu'est-ce qu'on peut faire sur nos médias en attendant, à part... je ne vais rien dire. Mais est-ce que Mathias Raymond, je ne sais pas, moi, les trucs que j'avais en tête, c'était notamment que peuvent faire les publics ? Est-ce que... on a vu là, par exemple, à France Inter, au moment où plusieurs émissions étaient menacées, l'émission La Terre au Carré, dont les auditeurs, auditrices se sont fortement mobilisés et qui ont obtenu le fait que la coproductrice de l'émission reste et que le format soit un petit peu moins mis en danger. Est-ce que cette question-là de l'alliance entre les publics et les journalistes, c'est quelque chose qui peut faire avancer les choses, selon toi, Mathias Raymond ?
C'est une vaste question, hein. C'est ce que je pense que je disais un petit peu tout à l'heure. Quand vous dites les publics, vous parlez des publics, pas du service public.
Non, des auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices.
Oui, des auditeurs, oui. Mais on est bien d'accord. C'est une vaste question. Et aujourd'hui, on est quand même dans une évolution de la société depuis, on va dire, une vingtaine d'années avec la numérisation de l'information et puis spécifiquement l'émergence des smartphones où on a une consommation de l'information qui est très individualisée, où chacun sélectionne ce qu'il va suivre comme information, quel média, quel réseau social, etc. Et donc, les publics participent aussi producteurs de l'information via Twitter, via Facebook, etc. Et les médias classiques, traditionnels, reprennent ces informations produites par des consommateurs d'informations. Donc on a évidemment une interaction qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, et encore plus qu'une trentaine d'années, et il faut construire là-dessus, à la fois réglementer, légiférer la production de l'information sur les réseaux sociaux, et voir comment les médias classiques s'approprient cette information-là. On le sait, hein, les journalistes, le premier réseau social des journalistes, c'est Twitter, ils s'informent beaucoup sur Twitter, les journalistes, parce que les politiques sont aussi sur Twitter, et donc il y a un microcosme d'informations qui circule là-dessus, qui fonctionne là-dessus, mais il faut aussi sortir de simplement ces microcosmes, mais avoir... une construction de l'information, une construction des médias qui soit plus transversale et plus globale, qui ne se cantonne pas simplement à des formats traditionnels d'information. Après, pour terminer sur ce point, encore une fois, moi je pense que rien ne peut se faire s'il n'y a pas une volonté de transformation des médias au sein du Parlement, par exemple. C'est de là que ça peut se faire. Donc là pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Peut-être je vais faire réagir Simon, mais une dernière question. Mathias, il y a là ces jours-ci, on parle beaucoup de l'ARCOM et de la question du renouvellement des autorisations de diffusion sur la TNT. Est-ce que là, alors c'est pas le législateur, c'est une autorité de régulation, est-ce que là aussi il n'y a pas un rôle quand même? Alors on sait que ça n'a jamais arrivé que des chaînes se fassent dégager pour des questions de ligne ou des questions idéologiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose quand même qui pourrait se jouer si ces chaînes-là, C8, CNews étaient suspendues et qu'à l'inverse on en avait d'autres comme Le Média, par exemple? Mathias?
Alors là, je pense qu'il y a un véritable enjeu, puisque ce n'est pas sur une ligne idéologique qu'il faudrait suspendre ces chaînes-là, mais plus sur une ligne de respect des règles, de manquement à la déontologie, de condamnation, parce qu'ils ont été, on sait, ces news et ces huit ont eu de nombreuses condamnations. Et donc, la question n'est pas est-ce qu'il faut que l'extrême droite ait sa chaîne de télé? La question, c'est surtout, est-ce qu'il faut qu'il y ait un média qui propage des fake news quotidiennement, 24 heures sur 24? Et là, je pense que l'ARCOM doit utiliser cet argument-là pour ne pas renouveler la concession, surtout à CNews, puisque CNews, c'est 24 heures sur 24, et c'est censé être une chaîne d'information généraliste. Après, la question de C8 se pose en particulier sur l'émission de Cyril Hanouna, parce qu'après, finalement, il y a des films, il y a des jeux, etc., c'est une autre affaire. Mais sur cette émission-là, on peut aussi imaginer une sanction qui soit une interdiction de diffusion sur la TNT de cette émission, parce qu'elle ne respecte pas les règles qu'elle est censée respecter. Il faut savoir que l'attribution des chaînes de la TNT se fait sur un appel d'offres avec un cahier des charges, et que ce cahier des charges n'a pas été rempli, tout simplement. Comme d'ailleurs celui de TF1. Hein. Il faut se rappeler que TF1 n'avait pas rempli son cahier des charges, mais a continué à bénéficier du renouvellement de sa concession.
Simon Barthélémy, un mot de conclusion ?
Oui, juste pour rebondir sur le média qui est candidat à la reprise dans des canaux TNT qui sont aujourd'hui à C8 et CNews, et qui est en train de constituer un pool de médias indépendants dont les trois rue 89 locaux, hein, Strasbourg, Lyon et nous à Bordeaux, et d'autres médias pour vraiment peser et présenter un projet le plus étoffé possible. On est vraiment, vraiment au tout début. Et pour rebondir sur ce que peuvent faire les gens, au-delà d'un geste de consommateur, ils peuvent aussi s'engager directement dans pas mal de titres. Je pense notamment encore une fois aux médias ou à Médias Basques qui fonctionnent en coopérative, qui permettent aux gens de prendre des parts, d'être aussi sociétaires et acteurs de leurs médias, pas seulement consommateurs. Et c'est une formule à laquelle on réfléchit pour 89 Bordeaux aussi, pour associer nos lecteurs et les encourager à participer à la vie du média et aussi à transmettre leurs informations. Ça c'est un point important si les gens veulent lire, qui nous alerte sur les sujets qui les préoccupent.
Et où à Acrimed, qui est aussi, s'il ne me trompe pas, un média associatif, Mathias Raymond?
Oui, on est une association, tout à fait.
Ou à la Clé des Ondes, qui est une radio associative. Merci beaucoup à vous deux, Simon Barthélémy, rédacteur en chef de rue 89 Bordeaux et coprésident du Club de la Presse de Bordeaux, et puis Mathias Raymond, maître de conférence en sciences économiques et co-animateur du site acrimed.org, qu'on vous invite à aller consulter. Merci beaucoup à vous deux, et puis le sujet n'est pas épuisé, on pourra en revenir sur tout ça dans les mois à venir.
Merci.
Merci, au revoir.
On termine avec quelques notes de Rami Khalife et ce titre Résiste, Rami Khalife qui sera en concert lundi prochain à la Villa Valmont à Lormont avec le Rocher de Palmer. Nos autres programmes de la journée, ce sera à 18h le chemin des transitions avec Zero Waste. Et puis ensuite, il y a pas mal d'émissions de la Clé des Ondes qui s'arrêtent ou qui passent en mode rediff pendant l'été. Donc Climat de Lutte est en vacances, mais participera à la méga radio, la radio éphémère à écouter pendant toute la mobilisation pour l'eau et contre les méga bassines la semaine prochaine. À 20h, Yassas, la musique grecque en mode rediff. 21h, le Jazz Athletic Club. Et 22h, des Colasson à Colasson. C'était le dernier plat de Résistance en direct pour cette saison. Demain, ce sera la rediffusion d'Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire qui s'intéresse notamment aux reclusiennes du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Et dans les semaines à venir, vous entendrez à 7h quelques interviews, créations réalisées par la Clé des Ondes et ses amis, ou alors tout simplement notre superbe bande musicale. Un énorme merci à Léa Perron qui m'a aidé à produire le plat de résistance pendant toute cette année et qui va beaucoup nous manquer l'année prochaine. Bon vent Léa. Et bel été à vous, chers auditeurs. Tout de suite, 13h sur la Clé des Ondes, Acétone, la rediff.
L'égalité du genre humain.
L'égalité du genre humain.
Plus de pauvres à genoux.
Plus de riches debout. Dansons la carmagnole. Vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole. Vive le son du canon. Assaïra, assaïra, assaïra. Les aristocrates à la lanterne. Assaïra, assaïra, assaïra. Les aristocrates et les bourgeois. Dans la vieille cité française existe une race de frères dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille.